Chapitre 216. Sois persuadé que les souffles du Saint-Esprit délieront ta langue. Parle donc, parle sans détour, avec un grand courage, lors de chaque réunion. Lorsque tu t'apprêtes à prononcer ton allocution, adresse-toi tout d'abord à Baha'u'llah et sollicite les confirmations du Saint-Esprit. Puis desserre les lèvres et profère ce que ton cœur te suggère. Cela toutefois avec un courage, une dignité et une conviction extrême. Mon espoir est que, jour après jour, vos rassemblements se développent et prospèrent, et que ceux qui cherchent la vérité écoutent les arguments raisonnés et les preuves concluantes. Je suis avec vous, cœur et âme, à chaque réunion. Soyez assurés de cela. Chapitre 217. Le croyant, lorsqu'il enseigne, doit être lui-même totalement enflammé afin que ses paroles, telles la flamme, puissent exercer une influence et consumer le voile de l'égoïsme et de la passion. Il doit aussi être parfaitement humble afin de pouvoir édifier ses semblables et entièrement effacé, comme évanescent, afin de pouvoir enseigner en harmonie avec l'assemblée céleste, faute de quoi son enseignement restera sans effet. Chapitre 218. Ô vous, amis chers et intimes d'Abdu'l-Baha, à travers l'Orient, répandez des parfums, et sur l'Occident, déversez des splendeurs. Apportez la lumière aux Bulgares, aux Slaves, insufflez la vie. Un an après l'ascension de Baha'u'llah, ce verset est sorti des lèvres du centre de l'Alliance. Les briseurs d'Alliance le trouvèrent étrange et le traitèrent avec mépris. Pourtant, Dieu soit loué, ses effets sont à présent manifestes. Son pouvoir est révélé, son importance est désormais patente, car par la grâce de Dieu, l'Orient et l'Occident tressaillent de joie, et maintenant, grâce aux douces brises de sainteté, la terre entière est parfumée de musc. La beauté bénie a, en termes indubitables, formulé cette promesse dans son livre. Nous te contemplons de notre royaume de gloire et assisterons avec les armées du concours céleste et une compagnie de nos anges favoris, quiconque se lèvera pour le triomphe de notre cause. Grâce à Dieu, l'assistance promise a été accordée. Ceci est clair pour tous les hommes et elle brille aussi clair que le soleil dans les cieux. Par conséquent, ô vous, amis de Dieu, redoublez d'efforts, jusqu'à ce que vous triomphiez de votre servitude à l'égard de la beauté ancienne, de la lumière manifeste, et deveniez une source de diffusion à travers le monde des rayons de l'astre du jour de vérité. Insufflez dans le corps usé et décharné du monde le souffle frais de la vie, et dans les sillons de chaque région semez la graine sacrée. Levez-vous pour défendre cette cause, desserrez les lèvres et enseignez. Dans l'arène de la vie, soyez une lampe de direction divine. Dans les cieux de ce monde, soyez d'éblouissantes étoiles. Dans les jardins de l'unité, soyez des oiseaux de l'esprit, chantant les vérités et les mystères intimes. Épuisez chacun des souffles de votre vie dans cette grande cause et consacrez tous vos jours au service de Baha, afin qu'au bout de votre route, exempt de pertes et de privations, vous héritiez les trésors accumulés des royaumes d'en haut. Car les jours de l'homme sont semés d'embûches. Il ne peut compter sur un seul instant de vie supplémentaire, et pourtant, semblable au mirage de l'illusion, les gens se disent qu'en fin de compte, ils atteindront les sommets. Quelle déception, hélas! Les hommes des temps passés nourrissaient en leur sein ces mêmes chimères, jusqu'à ce qu'une vague les balaya et qu'ils redevinssent poussière. Tous se retrouvèrent alors exclus et abandonnés, tous sauf les âmes qui s'étaient libérées de leur moi et avaient sacrifié leur vie sur le chemin de Dieu. Leur scintillante étoile brilla dans les cieux de l'ancienne gloire, et les souvenirs hérités de tous les âges sont la preuve de ce que j'allègue. Par conséquent, ni le jour ni la nuit, ne vous accordez aucun repos et ne recherchez aucun confort. Énoncez les secrets de la servitude. Suivez le chemin du service, jusqu'à ce que vous obteniez le secours promis qui émane des royaumes de Dieu. ô amis. De sombres nuages ont enveloppé la terre entière. Et les ténèbres de la haine et de la méchanceté, de la cruauté, de l'agression et de la profanation se propagent jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les hommes, sans exception, passent leur vie dans une stupeur aveugle, et la rapacité, la cruauté sanguinaire de l'humanité sont tenues pour ses vertus premières. Dans la masse du genre humain, Dieu a choisi les amis et les a comblés de ses directives et de sa grâce illimitée. Son dessein est que nous nous efforcions tous, de tout notre cœur, à nous sacrifier, à guider nos semblables vers son chemin, à former les âmes des hommes, jusqu'à ce que ces bêtes effrénées se changent en gazelles dans les prairies de l'unité, que ces loups se transforment en agneaux de Dieu, et ces grossières créatures en cohortes angéliques. Que les feux de la haine s'éteignent, et que la flamme sortant du vallon abrité du tombeau sacré répande ses splendeurs. Que se dissipe l'odeur nauséabonde du fumier du tyran, faisant place aux douces et pures fragrances qui coulent des parterres fleuris de la foi et de la confiance. Ce jour-là, les faibles d'esprit puiseront à la munificence de l'Esprit divin universel. Et ceux dont la vie n'est qu'abomination chercheront ces saintes brises purifiantes. Mais il doit exister des âmes pour manifester de tels bienfaits. Il doit y avoir des laboureurs pour cultiver ces champs et des jardiniers pour entretenir ces jardins, des poissons pour nager dans cette mer et des étoiles pour scintiller dans ces cieux. Ces âmes souffrantes doivent être soignées par des médecins de l'esprit. Celles qui sont perdues ont besoin de guides pleins de mansuétude, afin que de telles âmes, les délaissées, puissent recevoir leur part. Que les pauvres découvrent chez autrui d'innombrables trésors, et que ceux qui cherchent la vérité obtiennent des preuves irréfutables. Ô mon Seigneur, mon protecteur, mon assistance dans le péril, humblement, je t'implore, et souffrant, je viens à toi pour être guéri. Soumis, j'élève vers toi ma voix, mon âme et mon esprit. Ô Dieu, mon Dieu, les ténèbres de la nuit ont enveloppé chaque région, et d'épais nuages isolent la terre tout entière. Les peuples du monde sont noyés dans les noirs abîmes des vaines illusions, tandis que leurs tyrans se vautrent dans la cruauté et la haine. Je ne vois que la lueur de feu rougeoyant s'élever du plus profond abîme. Je n'entends que le grondement menaçant s'échapper de milliers de terrifiantes armes d'agression. Alors que chaque pays s'écrie en son langage secret, mes richesses ne me servent à rien et ma souveraineté s'est évanouie. Ô mon Seigneur, les lampes de la direction divine se sont éteintes, les flammes de la passion s'élèvent toujours plus haut et la malveillance peu à peu gagne le monde. La méchanceté et la haine ont envahi toute la surface de la terre, et je ne trouve aucune âme, sauf ta petite cohorte d'opprimés, pour pousser cette clameur. Hâtez-vous d'aimer, hâtez-vous d'avoir confiance, hâtez-vous de donner, soumettez-vous aux directives célestes. Venez pour l'harmonie, pour contempler l'astre du jour. Venez ici pour la bonté, pour le réconfort. Venez ici pour l'amitié et la paix. Venez et jetez bas les armes de votre courroux jusqu'à ce que règne l'unité. Venez et que dans le vrai chemin du Seigneur, chacun assiste son semblable. En vérité, tes opprimés se sacrifient dans chaque pays, corps et âme, avec une joie extrême pour tout le genre humain. Tu les vois, ô mon Seigneur, pleurant sur les afflictions de ton peuple, se lamentant sur les chagrins de tes enfants, compatissant avec l'humanité, souffrant des calamités qui assaillent tous les habitants de la terre. Ô mon Seigneur, donne-leur les ailes de la victoire, afin qu'ils puissent s'élever vers le salut. Fortifie leurs reins dans le service de ton peuple, et leurs échines dans la soumission à ton seuil de sainteté. En vérité, tu es le généreux, tu es en vérité le miséricordieux. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le clément, celui qui prend pitié, l'ancien des jours. Chapitre 219. Ô vous, fils et filles du royaume, votre lettre, certainement d'inspiration céleste, m'est bien parvenue. Sa teneur m'a semblé fort réjouissante. Les sentiments qu'elle reflétait émanaient de cœurs lumineux. Les croyants à Londres sont vraiment constants et fidèles. Ils sont résolus et tenaces dans leur service de la cause. Mis à l'épreuve, ils ne faillissent point, et leur flamme ne faiblit pas avec le temps qui passe. Ils sont, au contraire, des Bahaïs. Ils sont du ciel, ils sont pleins de lumière, ils sont de Dieu. Ils deviendront, sans nul doute, des instruments pour exalter la parole divine et promouvoir l'unité dans le monde des hommes, pour propager les enseignements de Dieu et répandre, sous tous les horizons, l'égalité de chaque membre de la race humaine. Il est aisé de s'approcher du céleste royaume, mais il est pénible d'y demeurer ferme et opiniâtre, car les épreuves sont rigoureuses et lourdes à supporter. Mais les Anglais demeurent constants en toutes circonstances et ne se laissent pas trébucher aux premiers signes de désagrément. Ce ne sont pas des personnes changeantes, agissant avec inconstance lors d'un projet pour, bientôt, y renoncer. Ils ne se laissent pas fléchir dans leur enthousiasme et leurs ailes, pour quelque raison fût-il, une fois leur intérêt disparu. Non, dans toutes leurs actions, ils se montrent stables, solides comme le roc et opiniâtres. Tout en habitant sur des terres de l'Occident, vous avez, Dieu soit loué, perçu l'appel qu'il a lancé de l'Orient. Et comme Moïse, vous avez réchauffé vos mains au feu allumé dans l'arbre de l'Asie. Vous avez découvert le vrai chemin. Vous avez été allumé, tel des lampes, et vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Vous vous êtes levé, plein de gratitude pour ses bénédictions, et vous implorez l'assistance divine pour tous les peuples de la terre, afin que leurs regards puissent contempler les splendeurs du royaume d'Abba, et leurs cœurs, pareils à des miroirs, refléter les rayons étincelants du soleil de vérité. Mon espoir est que les brises du Saint-Esprit soient insufflées dans vos cœurs, de sorte que vos langues révèlent les mystères et exposent les significations cachées des livres sacrés. Que les amis deviennent des médecins et, grâce aux puissants remèdes des enseignements célestes, qu'ils guérissent les maladies qui affectent depuis si longtemps le corps de ce monde. Qu'ils donnent aux aveugles la vue, aux sourds la faculté d'entendre et aux morts la vie. Qu'ils réveillent ceux qui sont plongés dans le sommeil. Soyez assurés que sur vous descendront les confirmations du Saint-Esprit et que les armées du royaume d'Abba vous apporteront la victoire. Chapitre 220. Le Seigneur de toute l'humanité a façonné le royaume de l'homme pour en faire un jardin d'Éden, un paradis terrestre. Si, comme il le doit, ce royaume trouve la voie de l'harmonie et de la paix, de l'amour et de la confiance mutuelle, il deviendra une véritable demeure de félicité, un lieu de multiples bénédictions et d'infinies délectations. C'est là que sera révélée la perfection du genre humain. C'est là que, sur chaque main, brilleront les rayons du soleil de vérité. Souvenez-vous comment, jadis, Adam et les autres hommes vécurent ensemble dans l'Éden. Il a suffi qu'une discorde surgisse entre Adam et Satan pour que tous soient bannis de ce jardin. Ceci devait servir d'avertissement à la race humaine et faire savoir aux hommes que la dissension, même avec le diable, est la voie vers une cruelle perdition. C'est pourquoi, en cet âge illuminé qui est le nôtre, Dieu enseigne que les conflits et les controverses ne peuvent être tolérés, pas même avec Satan en personne. Bonté divine, combien grande reste l'insouciance de l'homme, même avec un tel enseignement sous les yeux. Son monde, nous le voyons, est en guerre d'un pôle à l'autre. C'est la guerre entre les religions, la guerre entre les nations, la guerre entre les peuples, la guerre entre les dirigeants eux-mêmes. Quelle heureuse métamorphose ce serait si seulement ces sombres nuages disparaissaient de l'horizon du monde, afin que la lumière de la réalité puisse se répandre aux quatre coins du monde. Si seulement la poussière obscure de ces combats et de ces massacres continuels pouvait se fixer à jamais et les douces brises de la bonté divine pouvaient souffler de la source de paix. Alors, ce monde se renouvellerait, et la terre brillerait de la lumière de son Seigneur. S'il existe un espoir, c'est uniquement dans la munificence de Dieu. Que vienne sa grâce fortifiante, que cessent les luttes et les conflits, et que la mère morsure de l'acier meurtrier se change en miellée d'amitié, de probité et de confiance. Combien douce serait la saveur de ce jour, combien son parfum musqué embaumerait. Dieu fasse que l'année nouvelle apporte une promesse de cette paix nouvelle, qu'il permette à cette noble assemblée de conclure un traité équitable et d'établir une juste alliance, afin que vous soyez bénis à jamais, au-delà des atteintes du temps. Nota, discours prononcé devant les lecteurs de la revue The Christian Commonwealth, le 1er janvier 1913. Chapitre 221. Ô vous qui êtes fermes dans l'Alliance. Le pèlerin a fait mention de chacun d'entre vous et a sollicité l'envoi d'une lettre séparée à chacun. Mais ce voyageur dans le désert de l'amour divin est retenu par mille et une préoccupations, par mille et un soucis, et comme de l'Orient et de l'Occident, il est inondé d'un flot ininterrompu de missives, il lui serait impossible d'adresser une lettre à chacun. C'est pourquoi celle-ci est destinée à chacun d'entre vous. Puisse-t-elle, comme du vin cacheté, réjouir vos âmes et réchauffer vos cœurs. Ô vous, bien-aimés qui êtes pleins de fermeté, la grâce divine se déverse sur l'humanité, pareille aux ondées printanières, et les rayons de la lumière manifestes ont fait de cette terre un objet de convoitise pour le ciel. Mais, hélas, les aveugles sont privés de cette munificence, les insouciants en sont exclus, les flétris désespèrent d'y participer. Les âmes desséchées s'éteignent lentement, de sorte que, telles des eaux inondantes, ce flux infini de grâce retourne à sa source première dans un océan caché. Seuls quelques-uns reçoivent cette grâce et obtiennent leur part. Par conséquent, plaçons nos espoirs dans ce que nous tend de son bras ferme le bien-aimé. Nous avons confiance que, dans l'avenir, les assoupis s'éveilleront, que les insouciants prendront conscience et que les exclus deviendront des initiés dans les mystères. À présent, les amis doivent continuer à œuvrer corps et âme, et à déployer de puissants efforts pour que les remparts de la dissension s'écroulent et que les gloires de l'unité de l'humanité nous guident tous vers le rassemblement. Aujourd'hui, la seule nécessité primordiale est l'unité et l'harmonie entre les bien-aimés du Seigneur, car ils ne devraient avoir entre eux qu'un seul cœur et une seule âme, et résister de concert à l'hostilité de tous les peuples du monde. Ils doivent mettre un terme aux préjugés aveugles de toutes les nations et religions et faire savoir à chacun des membres de la race humaine qu'ils sont tous les feuilles d'une même branche, les fruits d'un même bourgeon. Or, tant que les amis n'ont pas établi entre eux l'unité parfaite, comment peuvent-ils exhorter leurs semblables à l'harmonie et à la paix? L'âme qui n'a pas elle-même accédé à la vie peut-elle espérer en ranimer une autre? Réfléchissez aux formes de vie autres que celles du monde humain, et soyez ainsi avertis. Ces nuages qui se dispersent ne peuvent produire des pluies abondantes, et se dissiperont bientôt. Un troupeau de moutons, une fois dispersé, devient la proie des loups, et les oiseaux qui volent isolément tomberont rapidement sous les griffes du faucon. Quelle preuve plus évidente pourrait-il exister que l'unité mène à une vie florissante? Alors que la dissension et le repli sur soi ne conduiront qu'à la misère, car telles sont les voies les plus sûres vers un cruel désenchantement et vers la ruine. Les saintes manifestations de Dieu furent envoyées au monde pour faire apparaître l'unité de l'humanité. Pour cela, elles endurèrent d'innombrables maux et tribulations, afin que des divers peuples de l'humanité puissent surgir une communauté qui se rassemblerait à l'ombre de la parole de Dieu, vivrait comme un seul être, et avec délectation et grâce, démontrerait sur terre l'unité du genre humain. C'est pourquoi les amis doivent aspirer à rassembler et unifier tous les peuples, afin qu'ils reçoivent tous une grande gorgée de ce vin très pur, de cette coupe adossie à la fontaine du camphre. voir Coran 76, 5. Que par eux, les différentes populations soient à l'unisson, et que les tribus hostiles et meurtrières de la terre parviennent à s'aimer les unes les autres. Qu'ils détachent de leur gibet les captifs des désirs sensuels, et que par eux, les exclus deviennent des initiés des mystères. Qu'ils apportent aux délaissés une part de bénédiction de séjour, qu'ils orientent les indigents vers un inépuisable trésor. Cette grâce peut se répandre à travers des paroles, des moyens et des actions qui sont de l'invisible royaume et sans lesquelles elle ne pourra jamais exister. Les confirmations divines sont la garantie de ces bénédictions. La sainte munificence de Dieu dispense ses précieux bienfaits. Les amis de Dieu sont soutenus par le royaume d'en haut, et ils remportent leur victoire grâce aux armées massées de la direction suprême. Ainsi, chaque difficulté sera pour eux aplanie, chaque problème sera résolu de la manière la plus aisée. Observez combien, lorsque règne l'unité dans une famille, les intérêts de celle-ci sont gérés sans difficulté. Quel progrès réalisent les membres de cette famille et combien ils prospèrent en ce monde. Leurs affaires sont en ordre, ils jouissent du bien-être et de la sérénité, ils sont en sécurité, leur position est assurée et ils sont enviés de tous. Une telle famille ne fait que rehausser son statut et son honneur jour après jour. Et si nous élargissons quelque peu le cercle d'unité pour y inclure les habitants d'un village qui cherchent à vivre dans l'amour et dans l'union, qui observent entre eux la convivialité et la bienveillance, quels immenses progrès ne réaliseront-ils pas? Ils seront ô combien rassurés et protégés. Alors, élargissons encore un peu le cercle d'unité. Prenons tous les habitants d'une ville, tous sans exception. S'ils établissent entre eux les liens d'unité les plus solides, comme ils progresseront, même pour une brève période, et quel pouvoir ils exerceront. Et si le cercle d'unité se trouve encore élargi, c'est-à-dire si les habitants d'un pays tout entier révèlent des cœurs épris de paix, et si, corps et âme, ils aspirent à coopérer et à vivre dans l'union, s'ils deviennent bons et affectueux les uns envers les autres, ce pays jouira d'une félicité sans bornes et d'une gloire permanente. Il connaîtra la paix, l'abondance et possédera d'immenses trésors. Observez encore, si chaque clan, chaque tribu, chaque communauté, chaque nation, chaque pays ou territoire de cette terre se rassemblait sous le pavillon à une seule couleur de l'unité de l'humanité, et que, par les rayons éblouissants du soleil de vérité, ils proclamaient l'universalité de l'homme, si par eux toutes les nations et toutes les croyances ouvraient tout grand leurs bras les unes aux autres, qu'elles établissaient un conseil mondial et s'employaient à unir les uns aux autres les membres de la société par de solides liens mutuels, qu'arriverait-il alors? Il ne fait aucun doute que le divin bien-aimé, dans toute sa tendre bonté, ayant avec lui une immense armée de célestes confirmations, de bénédictions et de bienfaits destinés aux hommes, apparaîtra dans toute sa gloire devant l'assemblée du monde. C'est pourquoi, ô vous bien-aimés du Seigneur, empressez-vous, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être à l'unisson, pour vivre en paix, l'un avec tous les autres, car vous êtes tous les gouttes d'un seul océan, le feuillage d'un seul arbre, les perles d'un même coquillage, les fleurs et les douces herbes d'un seul et même jardin. Et tout en accomplissant cela, efforcez-vous d'unir les cœurs de ceux qui adhèrent à d'autres fois, car vous devez sacrifier votre vie même l'un pour l'autre. Vous devez être infiniment bon envers chaque être humain. N'appelez personne du nom d'étranger. Ne voyez d'ennemis en personne. Soyez comme si tous les hommes étaient vos parents proches et vos amis respectés. Agissez de telle manière que ce monde éphémère se transforme en un lieu de splendeur et que ce tas de poussière lugubre devienne un palais de délectation. Tel est le conseil que vous adresse Abdu'l-Bahá, cet infortuné serviteur. Chapitre 222. Ô vous, les sans-gîtes et les vagabonds sur le chemin de Dieu. La prospérité, le contentement et la liberté, aussi désirés qu'ils soient et propices au bonheur du cœur humain, ne saurait en aucun cas se comparer aux épreuves des sans-abri et à l'adversité endurée sur le chemin de Dieu, car un tel exil et un tel bannissement sont bénis par la faveur divine, et sans nul doute, la miséricorde providentielle les accompagne. La joie de la tranquillité du foyer et la douceur d'être délivré de tout souci passeront, tandis que la bénédiction de l'exil durera à jamais et ses conséquences, d'une portée incalculable, seront rendues manifestes. Le départ d'Abraham de sa terre natale provoqua la manifestation des multiples bienfaits du très glorieux, et le déclin de la plus brillante étoile de Canaan découvrit aux yeux des hommes l'éclat de Joseph. La fuite de Moïse, le prophète du Sinaï, révéla la flamme du feu du Seigneur, et l'avènement de Jésus insuffla dans le monde les brises du Saint-Esprit. Le départ de Mohammed, le bien-aimé de Dieu, de sa cité natale, fut la cause de l'exaltation de la sainte parole de Dieu, et le bannissement de la beauté sacrée contribua à diffuser, à travers toute la terre, la lumière de sa révélation divine. Prenez bien garde, ô peuple perspicace. Chapitre 223. Ô vous, fils et filles du royaume, j'ai bien reçu votre lettre m'apprenant que, Dieu soit loué, vos cœurs demeurent dans la plus extrême pureté et vos âmes se réjouissent des bonnes nouvelles de Dieu. La masse des êtres humains est occupée de son moi et de désirs matériels. Elle est immergée dans l'océan de ce bas monde et captive du royaume de la nature, à l'exception des âmes qui ont été libérées des chaînes et des fers du monde matériel et qui, telles des oiseaux au vol rapide, s'élèvent dans ce royaume sans limite. Elles sont éveillées et vigilantes. Elles fuient l'obscurité du monde de la nature. Leur souhait le plus ardent est que disparaisse parmi les hommes la lutte pour l'existence, que se manifeste la spiritualité et l'amour du royaume d'en haut. Que les peuples se considèrent avec une bienveillance extrême. Que des rapports intimes et étroits s'établissent entre les diverses religions. Et que l'idéal de l'abnégation de soi soit mis en pratique. Alors le monde de l'humanité se transformera en royaume de Dieu. Ô vous, amis, faites un effort. Chaque dépense nécessite un revenu. Aujourd'hui, dans le monde de l'humanité, les hommes ne cessent de dépenser, car la guerre n'est que la consommation des hommes et des richesses. Engagez-vous tout au moins dans une action profitable au monde de l'humanité, afin de pouvoir compenser partiellement cette perte. Peut-être, grâce aux divines confirmations, pourrez-vous, avec l'aide céleste, proclamer l'amitié et la concorde parmi les hommes, substituer l'amour à l'inimitié, faire que la paix universelle résulte de la guerre universelle, transformer la perte et la rancœur en profit et en amour. Ce souhait sera exaucé par le pouvoir du royaume. Chapitre 224. Ô toi, serviteur de Dieu, j'ai bien reçu ta lettre. Les termes en sont élevés et sublimes, l'intention noble et de grande portée. Le monde de l'humanité a grandement besoin d'être amélioré, car il est une jungle matérielle dans laquelle prospèrent les arbres stériles et abondent les mauvaises herbes. S'il se trouve un arbre pour porter des fruits, il est masqué par les arbres stériles. Et si dans cette jungle il pousse une fleur, elle est cachée et demeure invisible. Le monde de l'humanité a besoin de jardiniers experts qui puissent transformer ses forêts en délicieux jardins de roses, substituer à ces arbres stériles des arbres fructueux et remplacer ces mauvaises herbes par des roses et des herbes odorantes. Ainsi, les âmes actives et les êtres vigilants ne s'accordent de nuit comme de jour aucun repos. Ils s'efforcent d'être intimement liés au royaume divin et par là de devenir les manifestations de la munificence infinie et pour ces forêts, des jardiniers exemplaires. Ainsi, le monde de l'humanité sera totalement transformé et les générosités miséricordieuses deviendront manifestes. Chapitre 225. Ô vous, rassemblement du royaume d'Abba, Deux appels à la réussite et à la prospérité sont lancés des sommets du bonheur de l'humanité, réveillant les assoupis, donnant la vue aux aveugles, rendant conscience aux inattentifs, apportant aux sourds la faculté de l'ouïe, déliant la langue des silencieux et ressuscitant les morts. L'un est l'appel de la civilisation, du progrès du monde matériel. Il relève du monde phénoménal, contribue à promouvoir les principes de la réussite matérielle et à développer les talents physiques de l'humanité. Il comprend les lois, les règlements, les arts et les sciences grâce auxquels s'est développé le monde de l'humanité. Lois et règlements qui résultent de nobles idéaux et de saines consciences, et qui ont accédé à l'arène de l'existence grâce aux efforts des êtres avisés et cultivés dans les âges écoulés et à venir. Or, l'élément propagateur et le pouvoir exécutif de cet appel, c'est un gouvernement juste. L'autre est l'appel qui remue l'âme. Cet appel vient de Dieu, dont les enseignements spirituels sont la garantie de la gloire et du bonheur éternel de l'humanité et de son illumination. Il contribue à révéler dans le monde humain et la vie à venir les attributs de miséricorde. Ce second appel repose sur les commandements et les exhortations du Seigneur, sur les admonitions et les émotions altruistes relevant du domaine de la moralité, et qui, telle une brillante lumière, éclaire et illumine la lampe des réalités humaines. Son pouvoir pénétrant est la parole de Dieu. Toutefois, tant que les réalisations matérielles et les vertus humaines ne seront pas renforcées par des qualités lumineuses et par les caractéristiques de la miséricorde, ces réalisations et ces vertus demeureront stériles, et le bonheur du monde de l'humanité, ce but ultime, ne sera pas atteint. Car même si les réalisations matérielles et le développement du monde physique apportent la prospérité qui révèle de façon exquise les buts auxquels elle tend, la menace du danger, de cruelles calamités et de violentes afflictions n'en demeure pas moins présente. Par conséquent, lorsque tu observes l'aspect ordonné des royaumes, des villes et des villages, l'attrait de leurs ornements, la fraîcheur de leurs ressources naturelles, le raffinement de leurs équipements, le confort de leurs moyens de transport, la somme des connaissances disponibles sur le monde de la nature, les grandes inventions. Les entreprises colossales, les nobles découvertes et les recherches scientifiques, tu en déduis volontiers que la civilisation conduit au bonheur et au progrès du monde humain. Pourtant, si tu dirigeais ton regard vers la découverte de machines destructrices et infernales, vers le développement de forces d'anéantissement et l'invention de matériel de guerre terrifiant qui déracine l'arbre de vie, il te serait évident et manifeste que la civilisation est associée au barbarisme. Progrès et barbarisme vont de pair. Tant que la civilisation matérielle n'est pas confirmée par la direction divine, par les révélations du très miséricordieux et par de saintes vertus, tant qu'elle n'est pas renforcée par la conduite spirituelle, par les idéaux du royaume et par les bénédictions du royaume de puissance. Observe à présent comme les nations les plus avancées et les plus civilisées du monde ont été transformées en autant d'arsenaux de matières explosives, comme les continents du globe sont devenus d'immenses camps et champs de bataille, comme les peuples de la Terre se sont constitués en nations armées, et comme les gouvernements du monde rivalisent entre eux. Et c'est à qui accédera le premier au champ du carnage et du bain de sang, soumettant ainsi l'humanité aux afflictions les plus extrêmes. Par conséquent, cette civilisation et ce progrès matériel devraient être associés à la plus grande direction, afin que sur la scène de ce bas monde apparaissent les bienfaits du royaume et que les réalisations concrètes soient reliées aux fulgurations du miséricordieux. Ceci afin que la beauté et la perfection du monde de l'homme se dévoilent et se manifestent aux yeux de tous, dans toute leur grâce et toute leur splendeur. Ainsi seront révélées la gloire et le bonheur éternel. Dieu soit loué. Au cours des siècles et des âges successifs, l'appel de la civilisation a été lancé. Le monde de l'humanité a progressé jour après jour. Divers pays se sont développés à pas de géant et les améliorations d'ordre matériel se sont accrues. Jusqu'à ce que le monde de l'existence ait obtenu la faculté universelle de recevoir les enseignements spirituels et de prêter l'oreille à l'appel de Dieu. Le nourrisson traverse différents stades de croissance physique jusqu'à ce que son corps ait atteint l'âge de maturité. Parvenu à ce stade, il acquiert la capacité de manifester les perfections spirituelles et intellectuelles. Les lumières de la compréhension, de l'intelligence et du savoir lui sont désormais perceptibles et les pouvoirs de son âme se manifestent. De même, dans le monde contingent, l'espèce humaine est passée par des mutations physiques progressives et, grâce à un lent processus, elle a gravi l'échelle de la civilisation, réalisant en elle-même les prodiges, les perfections et les dons de l'humanité sous leur forme la plus glorieuse, jusqu'à posséder la faculté d'exprimer les splendeurs des perfections spirituelles et des idéaux divins, et d'être ainsi en mesure d'écouter l'appel de Dieu. Alors, enfin, retentit l'appel du royaume. Les vertus et perfections spirituelles furent révélées, le soleil de réalité se leva, et les enseignements de la plus grande paix, de l'unité de l'humanité et de l'universalité des hommes furent promus. Nous espérons que l'éclat de ces rayons devienne toujours plus intense et les vertus idéales toujours plus resplendissantes, afin que le but de ce processus humain universel puisse être atteint et que l'amour divin apparaisse dans toute sa grâce et sa beauté, éblouissant tous les cœurs. Ô vous, bien-aimés de Dieu, sachez en vérité que le bonheur du genre humain réside dans l'unité et l'harmonie de la race humaine, et que les progrès, tant spirituels que matériels, reposent sur l'amour et l'affection parmi tous les hommes. Considérez les créatures vivantes, en particulier celles qui se déplacent sur la terre et celles qui volent dans les airs, celles qui paissent et celles qui dévorent les aliments. Parmi les bêtes de proie, chaque espèce vit séparée des autres espèces du règne animal, dans un antagonisme et une hostilité absolue. Chaque fois que deux espèces se rencontrent, elles engagent aussitôt un combat sanguinaire, montrant leurs dents et sortant leurs griffes. C'est ainsi que se comportent les bêtes féroces et les loups assoiffés de sang, les animaux carnivores qui vivent dans l'isolement et se battent pour la vie. Les animaux dociles, pacifiques et doux, au contraire, qu'ils appartiennent aux espèces volatiles ou aux espèces des ruminants, se mêlent les uns aux autres dans une affinité totale, les unissant au sein du troupeau, et passent leur existence dans la joie, le bonheur et la satisfaction. Tels sont les oiseaux qui se contentent de quelques grains. Ils vivent dans une totale félicité, faisant entendre leurs chants riches et mélodieux, tandis qu'ils survolent les prairies, les plaines, les collines et les montagnes. De même, les animaux de pâturage tels que le mouton, l'antilope et la gazelle s'associent dans l'amitié, l'intimité et l'unité les plus grandes, alors qu'ils vivent dans leurs plaines et leurs prairies dans un état de contentement total. En revanche, les chiens, les loups, les tigres, les hyènes et autres bêtes de proie sont aliénés les uns aux autres, tandis qu'ils chassent et rôdent isolément. Les créatures des champs et les oiseaux qui volent dans les airs ne se fuient et ne s'importunent jamais les uns les autres lorsqu'ils arrivent sur leur terrain de pâturage et de repos. Ils s'acceptent mutuellement avec mansuétude, à l'inverse des bêtes avides qui se déchirent aussitôt quand l'une d'entre elles fait irruption dans l'antre ou la tanière d'un autre animal de proie. Pire encore, si l'une d'elles passe devant le repère d'une autre bête, celle-ci se rue, l'attaque et, si elle le peut, anéantit l'intruse. Ainsi, il a été clairement démontré que dans le royaume animal également, l'amour et l'affinité sont le résultat d'un caractère doux, d'une nature pure et d'une attitude louable, tandis que la discorde et l'isolement sont propres aux bêtes féroces de la jungle. Le Tout-Puissant n'a pas donné à l'homme les griffes et les crocs des animaux de proie. Bien au contraire, le corps humain a été façonné à l'aide des attributs les plus avenants et doué des vertus les plus parfaites. Or, l'honneur de cette création et la valeur de ses attributs exige que l'homme fasse preuve d'amour et d'affinité envers ses semblables. Mieux encore, qu'il agisse envers toute créature vivante avec justice et équité. Considérez encore comme le bien-être, le bonheur, la joie et le confort de l'humanité proviennent de l'amitié et de l'union, alors que la dissension et la discorde contribuent le plus souvent à imposer des tribulations, des humiliations, des troubles et des échecs. Mille et mille fois, hélas. L'homme se rend coupable de négligence. Il n'a pas conscience de ses faits et quotidiennement il agit en bête sauvage. Voyez, tantôt il se transforme en tigre féroce et tantôt devient une vipère rampante et venimeuse. Pourtant, les grandioses réalisations des hommes résident dans des qualités et attributs qui n'appartiennent qu'aux anges du concours suprême. Ainsi, lorsque l'homme est doté de qualités louables et d'une haute moralité, il devient un être céleste, un ange du royaume, une réalité divine et une fulguration des cieux. Au contraire, lorsqu'il se lance dans les guerres et les conflits sanglants, il devient plus vil que la plus féroce des créatures sauvages. Car si un loup assoiffé de sang dévore un agneau en une seule nuit, l'homme assassine 100 000 de ses semblables sur le champ de bataille, jonchant la terre de leurs cadavres et l'arrosant de leur sang. En bref, l'homme est doté de deux natures distinctes, l'une tendant vers la sublimité morale et la perfection intellectuelle, l'autre inclinant vers la dégradation bestiale et les imperfections charnelles. Si vous parcourez les pays du globe, vous observerez d'un côté les séquelles de la ruine et de la destruction, et de l'autre les signes de la civilisation et du progrès. Cette désolation et cette ruine sont le résultat des guerres, des conflits et des dissensions, alors que tout développement et tout progrès sont les fruits des lumières de la vertu, de la coopération et de la concorde. Si vous voyagez à travers les déserts de l'Asie centrale, vous observerez combien de cités, jadis importantes et prospères, à l'image de Paris et de Londres, sont à présent démolies et détruites de fond en comble. De la mer Caspienne au fleuve Oxus s'étendent des plaines sauvages et désolées, des déserts et des vallées incultes. Le chemin de fer russe met 2 jours et 2 nuits à traverser les cités en ruine et les villages inhabités de ces terres dévastées. Autrefois, cette plaine portait les fruits de civilisations les plus raffinées. Partout se manifestaient les signes du développement et de la finesse. On encourageait et protégeait les sciences. Les métiers et les industries florissaient. Le commerce et l'agriculture avaient atteint un haut niveau d'efficacité. Et les concepts de gouvernement et de sciences politiques reposaient sur de très solides bases. Aujourd'hui, cette vaste région, qui sert avant tout de refuge pour certaines tribus turcomanes, est la demeure de prédilection des bêtes sauvages. Les cités antiques de cette plaine, telles que Gurgan, Nissa, Abiord et Charistan, célèbres à travers le monde pour leur art, leurs sciences, leurs industries et leur culture, et renommées pour leur richesse, leur grandeur, leur prospérité et leur noblesse, ont laissé place à un désert où nulle voix ne résonne plus désormais, si ce n'est le rugissement des bêtes sauvages et où rôdent à loisir des loups assoiffés de sang. Cette destruction et cette désolation ont été provoquées par les guerres et les conflits, les dissensions et les discordes entre Persans et Turcs, dont les vues ne coïncidaient pas en matière de religion et de coutumes. Les préjugés religieux étaient si forts que les dirigeants impies approuvaient les effusions de sang, les meurtres d'innocentes victimes, le pillage des propriétés et la désacralisation de la famille. Cela pour ne citer qu'un seul exemple. C'est pourquoi, lorsque tu parcours les régions de la terre, tu en arriveras certainement à la conclusion que tout progrès est le fruit d'une association, d'une coopération, alors que la ruine résulte de l'animosité et de la haine. Et pourtant, l'humanité ne perçoit pas l'avertissement. Elle demeure endormie dans le sommeil de l'insouciance. L'homme continue à provoquer des guerres et des conflits afin de maintenir ses armées et, à l'aide de ses légions, de se précipiter dans l'arène du massacre et du bain de sang. considère dans un deuxième temps les phénomènes de composition et de décomposition, d'existence et de non-existence. Chaque chose créée dans le monde contingent, étant formée d'une multitude d'atomes différents, son existence dépend de la composition de ces derniers. En d'autres termes, le divin pouvoir de création assemble de simples éléments pour que puisse naître de cette composition un organisme distinct. L'existence de toute chose est fondée sur ce principe, mais lorsque l'ordre est bouleversé, il se produit le phénomène inverse de décomposition et de désintégration. La chose cesse alors d'exister. Ainsi, l'annihilation de toute chose résulte d'une décomposition et d'une désintégration. Par conséquent, alors que l'attraction et la composition des divers éléments sont les instruments mêmes de la vie, la discorde, la décomposition et la division provoquent la mort. Ainsi, en toute chose, les forces de cohésion et d'attraction contribuent à l'apparition de résultats et d'effets fructueux, alors que l'aliénation des choses aboutit à des perturbations et finalement à la destruction. C'est grâce à l'affinité et à l'attraction que toutes les choses vivantes, telles que les plantes, les animaux et les hommes, viennent à exister, tandis que la division et la discorde provoquent la décomposition et l'anéantissement. Par conséquent, tout ce qui tend à associer, attirer et unifier les fils des hommes conduit à la vie. Par contre, tout ce qui est cause de division, de répulsion et d'éloignement contribue à la mort du genre humain. Si en passant devant un champ ou une plantation, tu observes les plantes, les fleurs et les herbes odorantes qui poussent ensemble avec luxuriance, formant un modèle d'unité, c'est là la preuve que cette plantation et ce jardin prospèrent sous la surveillance d'un jardinier de talent. Par contre, si le champ est dans un état de désordre et de désolation, tu en déduiras qu'il lui manque la compétence d'un fermier dont les soins efficaces auraient empêché la pousse des mauvaises herbes et de l'ivraie. Il est donc évident que l'amitié et la cohésion évoquent les soins de l'éducateur véritable, alors que la dispersion et la séparation sont une preuve de sauvagerie et de l'absence d'éducation divine. Un critique peut faire objection en déclarant que les peuples, les races, les tribus et communautés de ce monde diffèrent par leurs coutumes, leurs goûts, leurs caractères, leurs inclinations et leurs idées, que les opinions et les pensées sont opposées les unes aux autres. Comment, dans ces conditions, est-il possible qu'une réelle unité se manifeste et que vienne à régner dans l'âme des hommes un accord parfait? Nous dirons en réponse qu'il y a deux sortes de différences. La première est cause de destruction. Elle est comme l'antipathie existant entre des nations en guerre et des tribus en conflit, qui cherchent à détruire l'adversaire, à déraciner ses familles, à le priver de répit et de bien-être, et à déclencher le carnage. La seconde, qui est signe de diversité, est l'essence même de la perfection et la cause d'apparition des bienfaits du très glorieux Seigneur. Observe les fleurs d'un jardin. Elles sont toutes différentes par l'espèce à laquelle elles appartiennent, par leur couleur, leur grandeur et leur forme. Pourtant, si elles sont rafraîchies par les pluies d'un même printemps, revivifiées par le souffle d'un même vent, revigorées par les rayons d'un même soleil, cette diversité accroît leur charme et ajoute à leur beauté. Ainsi, lorsque cette force unifiante qu'est l'influence pénétrante de la parole de Dieu entre en action, les différences entre coutumes, manières, habitudes, idées, opinions et inclinations embellit le monde de l'humanité. Cette diversité témoigne de la dissemblance et de la variété naturellement créée des membres et des organes du corps humain. Chacun de ces organes contribue en effet à la beauté, à l'efficacité et à la perfection de l'ensemble. Lorsque ces divers membres et organes sont soumis à l'influence de l'âme souveraine de l'homme, et que le pouvoir de l'âme se répand à travers les membres et les vaisseaux du corps, alors la différence accroît l'harmonie. La diversité renforce l'amour et la multiplicité devient le facteur le plus important de la coordination. comme ce serait disgracieux si toutes les fleurs et les plantes, les feuilles, les fruits, les branches et les arbres de ce jardin avaient tous la même forme et la même couleur. La diversité des teintes, des tailles et des formes enrichit et agrémente le jardin, dont l'effet se trouve du même coup rehaussé. De la même manière, lorsque les divergences de vues, de tempérament et de caractère se seront rassemblées sous le pouvoir et l'influence d'une seule et même action centrale, la beauté et la gloire de la perfection humaine se révéleront et se manifesteront. Rien hormis la céleste puissance de la parole de Dieu, qui régit et transcende les réalités de toutes choses, n'est capable d'harmoniser les pensées, les sentiments, les idées et les convictions si diverses des enfants des hommes. En vérité, c'est le pouvoir pénétrant de toutes choses, l'élément moteur des âmes, le lien et le régulateur du monde de l'humanité. Dieu soit loué, aujourd'hui la splendeur de la parole de Dieu a illuminé tous les horizons. Des âmes issues de toutes les sectes, races, tribus, nations et communautés se sont réunies à la lumière de la parole, se sont rassemblées, unies et accordées en parfaite harmonie. Oh, combien de réunions d'âmes provenant de diverses races et sectes! Tous ceux qui y participent sont frappés d'étonnement et pourraient supposer que ces personnes sont toutes du même pays, qu'elles appartiennent à la même nationalité, à la même communauté, qu'elles sont animées de la même pensée, professent la même croyance et la même opinion, alors qu'en fait, l'une est américaine, l'autre africaine, l'une vient d'Asie et l'autre d'Europe, l'une est native de l'Inde, une autre du Turkestan, l'une est arabe, une autre tadjik, une autre encore est persane ou grecque. En dépit d'une telle diversité, ces hommes évoluent dans l'harmonie et l'unité, l'amour et la liberté les plus parfaits. Ils n'ont qu'une seule et même voix, une seule et même pensée, un seul et même but. En vérité, cela est dû au pouvoir pénétrant de la parole de Dieu. Toutes les forces de l'univers s'associeraient-elles, qu'elles seraient impuissantes à réunir une seule assemblée d'âmes si imprégnées d'amour, d'affection et d'enthousiasme. Qu'elles puissent unir les membres des différentes races et élever, du cœur même du monde, une voix qui éliminera la guerre et les conflits, extirpera la dissension et la discorde, introduira l'ère de la paix universelle et établira l'unité et la concorde parmi les hommes. Est-il un pouvoir qui puisse résister à l'influence pénétrante de la parole divine? Par Dieu, certainement non. La preuve est évidente et complète. Si nous observons avec le regard de la justice, frappés d'étonnement, nous témoignerons que tous les peuples, toutes les sectes et les races de la terre devraient être heureux, satisfaits et reconnaissants des enseignements et exhortations de Baha'u'llah. Car ces divines injonctions contribuent à dompter la bête féroce, à transformer l'insecte rampant en un oiseau désert, à faire que des âmes humaines deviennent des anges du royaume, et que le monde humain soit un foyer des qualités de miséricorde. Il incombe en outre à chacun de faire preuve d'obéissance, de soumission et de loyauté envers son propre gouvernement. Aujourd'hui, dans le monde, aucun État ne jouit de la paix ou de la sérénité, car la sécurité et la confiance ont déserté les peuples. Les gouvernés comme les gouvernants sont menacés. Le seul groupe humain qui à présent se soumet pacifiquement et loyalement aux lois et ordonnances gouvernementales et qui se comporte avec honnêteté et franchise vis-à-vis de la population, n'est autre que cette communauté lésée. En effet, alors que toutes les sectes et les races de la Perse et du Turkestan sont occupées à promouvoir leurs propres intérêts et n'obéissent à leur gouvernement que dans l'espoir d'une récompense ou par crainte d'un châtiment, les Baha'is sont les amis sincères du gouvernement, obéissant à ses lois et apportant l'amour à tous les peuples. Or, une telle obéissance, une telle soumission sont rendues obligatoires pour tous par le texte limpide de la beauté d'Abba. C'est pourquoi les croyants, obéissant au commandement du vrai Dieu, manifestent envers toutes les nations la sincérité et la bienveillance les plus extrêmes. Et si une âme devait agir contrairement aux lois gouvernementales, elle se considérerait comme responsable devant Dieu, comme méritant le courroux et le châtiment divin pour son péché et son méfait. Il est surprenant que, malgré cela, certains fonctionnaires du gouvernement considèrent les baillis comme des opposants et qu'ils voient dans les membres d'autres communautés des amis sincères. Bonté divine! Récemment, alors que la révolution et l'agitation régnaient à Téhéran et dans d'autres provinces de la Perse, il a été prouvé qu'aucun baï n'avait pris part à ces événements ou n'y était même intervenu. Les baï ont alors encouru les reproches des ignorants pour avoir obéi au commandement de la perfection bénie et s'être totalement abstenu d'intervenir dans les affaires politiques. Ils n'étaient associés à aucun parti, ne s'occupaient que de leurs propres affaires et de leurs propres métiers, ne s'acquittaient que de leurs propres obligations. Tous les amis de Dieu portent témoignage du fait qu'Abdul-Baha est, à tous égards, l'ami sincère de tous les gouvernements et de toutes les nations, et qu'il prie sincèrement pour leur progrès et leur développement, en particulier pour les deux grands États de l'Orient, car ces deux pays sont la terre natale et le lieu d'exil de Baha'u'llah. Dans toutes ses lettres et tous ses écrits, il a approuvé et loué ces deux gouvernements, implorant pour eux, au seuil du seul vrai Dieu, les confirmations divines. La beauté d'Abba, que ma vie s'est offerte en sacrifice à ses bien-aimés, a offert des prières de la part de leurs majestés impériales. Mon Dieu, n'est-il pas étrange que chaque jour, malgré ces preuves décisives, survienne quelque événement et que surgissent de nouvelles difficultés? Pourtant, nous et les amis de Dieu ne devrions, sous aucun prétexte, relâcher nos efforts sur le chemin de la loyauté, de la sincérité et de la bienveillance. Nous devrions à tout instant manifester notre fidélité et notre loyauté, et nous appliquer à offrir des prières pour le bien de tous. Ô vous, bien-aimés de Dieu, ces jours sont ceux de la constance, de la fermeté et de la persévérance dans la cause de Dieu. Vous ne devez pas concentrer votre attention sur la personne d'Abdul-Baha, car bientôt il vous fera ses adieux. Vous devez plutôt fixer votre regard sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est propagée, réjouissez-vous. Soyez heureux et reconnaissants, même si Abdul-Baha lui-même est menacé par l'épée et ploie sous les chaînes et les fers, car c'est le temple sacré de la cause de Dieu qui importe et non le corps physique d'Abdul-Baha. Les amis de Dieu doivent se lever avec une telle fermeté que si, à un moment quelconque, sans âme telle qu'Abdul-Baha deviennent les cibles des flèches de l'affliction, elles ne dériveront et n'hésiteront point dans leur résolution, leur détermination, leur enthousiasme, leur dévouement et leur service pour la cause de Dieu. Abdul-Baha est lui-même un serviteur au seuil de la beauté bénie et une manifestation de pure et d'extrême servitude au seuil du Tout-Puissant. Il n'a pas d'autre état ou de titre, nul autre rang ou pouvoir. Ceci est mon ultime but, mon éternel paradis, mon temple le plus sacré et mon Sadratul Muntaha. Nota, Sadratul Muntaha, divin lotus de la limite. Avec la beauté bénie d'Abba et l'exalté, son héros, que ma vie soit sacrifiée pour eux deux, c'est terminé l'apparition de la manifestation indépendante et universelle de Dieu. Pendant 1000 ans, l'humanité tout entière sera illuminée par ses lumières et soutenue par l'océan de ses faveurs. Ô vous, amoureux de Dieu! Ceci en vérité est mon dernier souhait et mon exhortation à votre endroit. Béni soit donc celui qui est aidé par Dieu à suivre ce qui est inscrit sur ce rouleau, dont les paroles sont sanctifiées des symboles en usage parmi les hommes.